Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Double Voix, le podcast qui met à l'honneur ces Lyonnais et Lyonnaises qui changent le monde, qui changent notre monde. Je suis Stéphanie Borgne en duo avec Julien Verchère pour ce podcast coproduit par On Express et Toulion, le média lyonnais qui vous parle d'écho et de plein d'autres sujets. Il aurait pu être cuisinier ou sapeur-pompier. Il sera finalement pâtissier-chocolatier. 100% purgone de la Croix-Rousse, il a fait ses classes chez les meilleurs ouvriers de France, mais c'est finalement l'affaire familiale qui l'a propulsé sur le devant de la scène et parmi les plus grandes signatures gourmandes. Ultra créatif, bien dans son époque, un peu visionnaire, il cultive l'art du beau et du bon, ici et ailleurs. Sans plus attendre, rejoignons sur le quai du Rhône Express à la part Dieu notre invité, Sébastien Bouillet, qui patiente, sans sa tenue de pâtissier, mais vêtu d'un t-shirt vert brodé amour, pour un voyage d'un peu moins de 30 minutes. Double Voix, épisode 3, c'est parti.
Bienvenue à bord de Rhône Express, à destination de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry.
Welcome aboard Rhône Express in direction of Lyon-Saint-Exupéry Airport.
Sébastien Bouillet, bonjour.
Eh bien, bonjour.
Nous allons passer un petit moment ensemble, c'est d'ailleurs l'heure du départ. Et vous Sébastien Bouillet, quel est votre premier souvenir sucré, l'origine de votre vocation ?
Alors mon premier souvenir sucré, c'est la tarte aux pommes de ma grand-mère. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont les souvenirs des grands-parents et notamment des grands-mères, mais moi c'est vraiment elle, mon premier souvenir, c'est une tarte qu'elle faisait évidemment maison, avec une pâte maison, qui était une pâte brisée. Une compote maison qu'elle faisait et des pommes et surtout à la sortie du four une petite noix de beurre dessus qui coulait dessus et ce côté en fait beurré de la tarte aux pommes, et ça c'est mon souvenir impérissable et j'ai jamais reproduit ce goût et j'ai jamais retrouvé ce goût depuis qu'elle est partie.
Donc finalement c'est un classique familial quelque part qui vous a aussi peut-être incité à explorer
Alors je sais pas si ça m'a incité, mais en tous les cas ça m'a donné le goût, l'envie et surtout le goût des choses simples, parce que finalement souvent le goût c'est des choses très simples et on revient beaucoup là-dessus.
Racontez-nous un peu votre parcours depuis l'enfance, l'adolescence jusqu'à devenir ce que vous êtes aujourd'hui.
Et ben moi c'était un apprentissage à 16 ans, donc à 15 ans un petit peu marre de l'école, envie de faire quelque chose, donc évidemment j'ai toujours œuvré dans la pâtisserie familiale puisqu'on habitait sur place, donc je suis passé un peu par toutes les tâches, caissier au magasin, la plonge, l'enrobage des chocolats, faire mes petits sablés, embêter les ouvriers de mon papa quand je descendais au labo puisqu'on habitait au-dessus, et puis après à 15 ans j'ai toujours fait beaucoup de sport et je me voyais bien dans une carrière avec quelque chose qui bouge. Et je suis allé visiter des casernes de pompiers. Mon papa avait un copain qui était capitaine, donc on est allé voir des casernes. Il m'a un peu expliqué le métier. Et puis finalement, j'ai fait des stages chez des copains de mon papa pâtissiers, notamment la maison Martin, qui est maintenant Délices d'essence dans le 6e. Et là, j'ai eu le déclic, en fait, parce que j'étais pas dans la facilité comme je pouvais l'être chez mes parents, mais plutôt dans la difficulté où on m'a pas fait de cadeau. Et je dis, mais ouais, finalement, c'est bien aussi. Et puis là, j'ai commencé un apprentissage à Lyon pendant 2 ans, CAP, chez un ancien ouvrier à mon père, qui était Dominique Marullier, dans le 6e arrondissement, Conflans-Carouzelt. Et puis après, je suis parti à Val d'Isère, chez Patrick Chevalot, qui est meilleur ouvrier de France, pendant 1 an. Donc là, j'ai allié mes deux passions, donc la montagne, le ski et la pâtisserie. Et là, j'ai appris la rigueur qui était de travailler chez un meilleur ouvrier de France. Et c'était assez fantastique. Ensuite, Patrick Chevalot m'a envoyé chez un collègue à lui, qui est Philippe Segond, un autre meilleur ouvrier de France, à Aix-en-Provence. Donc là, je passais de la montagne au sud de la France. Donc là, j'ai pu faire une autre passion qui était la moto, en même temps que la pâtisserie. Et là, à l'époque, Philippe Segond était un peu considéré comme le bijoutier de la pâtisserie. Et c'est vrai que je me rappelle être arrivé la première fois devant la vitrine et me dire « Mais je pourrais jamais faire ces gâteaux, c'est trop compliqué, c'est trop beau. » J'étais en stress complet quand j'ai fait ma journée d'essai. Puis finalement, j'ai été pris et je suis resté 3 ans là-bas. Une belle aventure professionnelle, humaine. Et plein de souvenirs, des rencontres, et un cadre de vie fantastique. Et puis là, ensuite, je suis monté à la capitale, à Paris, pendant presque 3 ans. J'ai d'abord œuvré à Enghien-les-Bains, en banlieue parisienne, chez un Meilleur de France traiteur, qui avait un magasin assez particulier où la moitié du magasin était charcutier-traiteur et l'autre moitié était d'une pâtisserie. J'étais en charge de la pâtisserie, donc mon premier poste de responsable et de chef pâtissier, du coup, où je gérais une équipe de 5 personnes. Et puis après, l'appel de Paris Intramuros, j'ai rencontré une personne qui s'appelait Gérard Mulot, c'est une des plus grosses et belles boutiques de Paris, et je rêvais de travailler là-bas. Et je l'ai rencontré par hasard sur un salon, et je lui ai dit, mais monsieur Mulot, je rêve de travailler chez vous, et un mois après, j'étais là-bas. Une belle rencontre, un beau chemin, pendant à peu près un an et demi, deux ans, où j'étais en charge de la création. En charge également à l'époque du Japon, parce qu'il y avait des boutiques au Japon, donc je m'occupais des essais et de mettre en place les choses pour le Japon. Alors malheureusement, j'y étais pas allé à cette époque-là, mais j'y travaillais en tous les cas. Et Monsieur Mulot allait après mettre en place les équipes là-bas au Japon. Et puis, un peu le manque de Lyon, un peu discussion avec mes parents en disant « je reviendrai bien ». Mais je reviendrai bien à condition que je puisse un peu changer les choses et en fait refaire ce que j'ai eu la chance d'apprendre. Donc appel du pied et puis finalement dans l'été je déménage à Lyon et je viens rejoindre mes parents dans la maison familiale.
Donc là nous sommes au début des années 2000, c'est ça ?
Eh oui, c'est ça.
Et donc c'est une forme de retour aux sources et donc le début aussi d'une carrière d'entrepreneur au-delà du métier.
Alors au départ c'était pas forcément entrepreneur, c'était reprendre l'affaire de mes parents, donc associé au début, puis après j'ai repris la société quelques années après. Au début c'était de faire mon métier de pâtissier, de faire valoir ce que j'avais appris, et puis d'essayer d'imposer mon style. J'ai eu la chance d'arriver aussi dans une Croix-Rousse en pleine mutation et en plein changement. Ce qui fait que la pâtisserie a été bien accueillie, parce que c'était quand même très moderne par rapport à ce que faisait mon papa. Il n'y a pas eu trop de transition. J'ai un peu cassé les codes. Il m'a dit, tu changes pas trop les choses. Finalement, ils sont partis en vacances, ils sont revenus et il n'y avait plus grand-chose qui ressemblait à ce qu'ils faisaient. J'ai quand même gardé deux, trois choses. Mais j'avais envie, évidemment, de prouver et de montrer ce que je savais faire. Hein. Quand on sort comme ça d'une belle expérience, on a envie de prouver, on a envie de montrer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc pendant deux ans, ça a bien fonctionné, le chiffre d'affaires a augmenté. Donc du coup, j'ai gagné un peu la confiance de mon papa et de mes parents. Et puis là, on a refait la boutique de la Croix-Rousse. Et puis là, ça a commencé à bien exploser et à progresser. Et puis après, l'envie d'ouvrir d'autres points de vente.
Et là, on bascule dans une autre dimension. C'est facile à gérer ou finalement, c'est quand même un gros changement?
Alors en fait, j'ai appris un peu sur le tas, hein, comme j'étais pas câblé pour ça au départ, et en fait, je me suis retrouvé effectivement au-delà de chef pâtissier ou pâtissier, je me suis retrouvé entrepreneur, gestion des ressources humaines, enfin je me suis retrouvé à tout faire en fait, et j'ai appris sur le tas au fur et à mesure. Alors ça m'a évidemment beaucoup plu parce que j'ai découvert d'autres facettes du métier. Et puis le métier d'entrepreneur qui est un métier qui est fantastique parce que ça allie mon métier avec d'autres ressources que je me pensais pas capable d'avoir en fait. Donc ça c'était assez bluffant. Et puis l'avantage c'est qu'on a progressé vite mais quand même au fur et à mesure puisque je suis revenu chez mes parents, on était 7, donc c'était quand même bien à taille humaine. Puis après on a progressé au fur et à mesure et pris des décisions au fur et à mesure, ouvert des boutiques au fur et à mesure. Donc du coup j'ai quand même eu le temps d'apprendre sur le tas quand même.
Et aujourd'hui, vous êtes plus de 100, c'est ça ?
Ouais, on est 120, voilà, sur 13 boutiques, 13 points de vente. Donc effectivement, quand on regarde, mais bon, il y a 22 ans quand même, hein, ça passe. Donc c'est vrai qu'il y a eu du chemin de parcouru, il y a eu des étapes, mais il y a eu quand même, j'ai pas été propulsé d'un seul coup, d'un jour à l'autre, de 7 à 120. Donc il y a eu plein d'étapes, je me suis aussi entouré et voilà, on en est là aujourd'hui, mais c'était hyper enrichissant et c'est hyper enrichissant. Je suis plus le même homme maintenant que j'ai été... il y a 22 ans maintenant.
Alors, à l'heure des réseaux sociaux, de la mise en scène du goût, de l'essor de la pâtisserie à la maison, comment on fait pour garder un coup d'avance quand on est Sébastien Bouillet ?
Alors, on imagine beaucoup de choses, on fait beaucoup d'essais, J'ai la chance de beaucoup voyager et du coup de voir beaucoup de choses, d'emmagasiner des choses. Moi, je suis très gastronomie, donc gastronomie au sens large. Donc, je goûte beaucoup. Et souvent, je me dis, bah, tiens, ça, c'est pas mal, cette association de goût, on pourrait peut-être essayer. Et j'ai la chance d'avoir avec moi, depuis maintenant un peu plus de 2 ans, quelqu'un qui est à la recherche et développement, qui s'appelle Sébastien, comme moi, et avec qui je travaille en étroite collaboration. Et en fait, on fait des essais toute la journée, c'est-à-dire que bah, chaque semaine, on part sur des nouveautés. Ça peut être une semaine où on fait que des tartes, une semaine où on fait que des cakes, une semaine où on fait que des chocolats. Et là, on goûte, on essaye, je lui donne des recettes, il en pioche, on essaie, on défait, on remonte, on refait. Enfin voilà, c'est hyper intéressant parce que des fois, on part d'une feuille blanche. Alors à force, on a quand même emmagasiné pas mal de recettes, donc on a quand même des bases. Mais c'est hyper intéressant de partir sur un produit au départ pour arriver à une finalité, quelque chose qui va sortir en magasin ou pour un événement. Et ça, c'est très chouette et c'est en fait l'essence même de notre métier. Et c'est ce qui, pour moi, est le plus intéressant parce que on est des créatifs, on a envie de faire plaisir, on a envie de faire découvrir, on a envie que nos clients, du coup, aiment évidemment. Donc ça passe par une phase de test en amont. Et en fait, c'est tout le back-office qu'on ne se rend pas compte et qui est le plus important et le plus intéressant pour nous.
Est-ce que vous arrivez encore à vous surprendre aujourd'hui, vous-même, sur des créations
Oui, je me surprends plein de fois. Mais oui, sur des créations. Alors, je ne sais pas si c'est surprendre, mais ouais, c'est de l'étonnement. On arrive à être content des fois de ce qu'on fait. Des fois, on est mécontent, hein, parce que des fois, on essaye pendant des semaines des choses qui aboutissent pas. C'est des fois un travail de dur labeur et c'est vraiment des fois un peu compliqué. Mais on est assez surpris des fois. En fait, c'est une remise en question permanente. Donc en fait, quand on se remet en question, on arrive toujours à une finalité parce qu'on est serein et qu'on sait où on veut aller. Et nous, on sait où on veut aller. On a mis des curseurs. Des fois, on est déçu, puis des fois, on est très content.
Et est-ce qu'à la fin, finalement, parfois, Sébastien a la pression de s'appeler Bouillet ?
Non, parce que, comme je vous l'ai dit, je me remets en question et j'ai pas de problème avec mon image, avec le sens qu'a pris le nom. Ouais, je suis assez les pieds sur terre là-dessus parce que j'ai été bien entouré et on m'a remis dans les cordes assez régulièrement. Donc, du coup, j'ai pas de pression particulière. C'est juste un peu plus chaud au niveau des réseaux, au niveau des remarques des gens, parce que forcément, quand on est exposé, il faut accepter les critiques. Alors, des fois, c'est des choses bien, mais des fois, c'est des critiques. Donc, il faut les accepter, et je trouve que la critique est constructive et qu'il faut justement avancer avec ces critiques. Moi, je préfère qu'on me dise ce qui va pas que ce qui va, parce que ce qui va, faire des bons gâteaux, des bons chocolats, on essaye de le faire au quotidien, et ça, j'espère qu'on y arrive. Après, par contre, quand on fait des erreurs, il faut nous le dire, parce que c'est comme ça qu'on progresse et qu'on essaye de rectifier justement ce qui va pas.
Alors, votre métier n'échappe pas aux réflexions autour de l'empreinte écologique. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour verdir, entre guillemets, vos créations ?
Alors, depuis quelques années, on essaye déjà de travailler qu'avec des produits de saison. Donc ça, c'est très important, hein, parce que après, c'est vrai que dans les vitrines des pâtissiers, souvent, on voyait des framboises et des fraises au mois de décembre. Hein, ça arrivait. Nous, ça nous est arrivé. Hein, donc, je suis le premier à le dire et à avoir essayé de changer les choses. Donc maintenant, on travaille vraiment qu'avec des produits de saison. En tout cas, tout ce qui est fruits frais. C'est que du travail de saison. Après, pour le reste, on surgèle par exemple des purées de fruits pour s'en servir à Noël, parce que évidemment qu'au mois de décembre, on ne va pas utiliser que des produits de saison, sinon les bûches seraient palottes et n'auraient pas beaucoup de saveur. Mais on congèle, par exemple, si on utilise de la framboise, on va congeler la purée de framboise qu'on va faire avec des bonnes framboises l'été et qu'on va surgeler. C'est la chance qu'on a, nous, en pâtisserie. Par contre, en fruits frais, il n'y aura jamais de fruits frais hors saison. Quoi. Un fraisier, vous me demandez un fraisier au mois de novembre, au mois de décembre, je refuserai de le faire catégoriquement parce que il n'y aura pas la saveur qu'on a envie d'avoir. Et puis, je trouve que c'est important de garder ces saisonnalités. Mais au même titre que quand je vois des fois en grande surface qu'on a passé Noël, qu'on a déjà Pâques dans les rayons, moi, je suis un peu désœuvré quand je vois ça parce que du coup, on saute un peu les saisons, on ne sait plus où on en est et je trouve ça un peu désœuvrant. Donc moi, j'essaye de respecter ça au maximum. On essaye aussi de faire du tri. On a une société lyonnaise qui travaille aussi pour nous tout ce qui est tri alimentaire. Donc ça, c'est une jeune entreprise qui vient de se lancer, Feedback, je peux les citer parce que franchement ils méritent et ils nous font tous les déchets et voilà, donc on a commencé en amont parce que ça va bientôt être obligatoire, mais on a voulu commencer nous à avoir un petit coup d'avance là-dessus. Voilà, donc on essaye de travailler au quotidien, faire attention à l'énergie également, à baisser notre consommation d'énergie. Là sur la nouvelle fabrication chocolat, on a essayé de trouver on a beaucoup de climatisation, donc des choses qui tournent un peu moins, qui consomment un peu moins. Et puis faire attention au quotidien à tous nos gestes, tous nos faits. On est en train de passer pour certains véhicules en électrique également dans la boîte. Voilà, on met notre petite empreinte. Alors, c'est peut-être pas beaucoup, mais si tout le monde fait un peu des efforts, je pense que demain sera plus beau.
Et alors, le cacao dans tout ça, puisque finalement, on sait qu'on n'aura pas de cacao dans la vallée du Rhône avant un certain temps, j'imagine.
Il y a des producteurs. C'est déjà pas mal.
C'est un produit de... lointain.
Ah, j'aimerais bien avoir des cacaoyers au bord, pas très loin, nous on n'est pas très loin du parc de Miribel, donc je pourrais proposer aux élus locaux peut-être de faire des cacaoyers au bord du parc de Miribel-Jeunet, ça serait plutôt chouette. Non, peut-être on y arrivera un jour, mais ça, vu le climat, ça m'étonnerait, mais non, bah, y a des choses où on ne pourra pas aller contre, malheureusement, hein, on a beaucoup de produits, et notamment le cacao, mais après, si le cacao est bien acheté par mes fournisseurs, et que la traçabilité est, et d'ailleurs c'est ce que je m'efforce, hein, je travaille avec des gens où il y a une traçabilité.
Il faut avoir de la confiance, il faut trouver des gens de confiance.
Totale confiance, et puis la traçabilité, c'est le plus important, de savoir d'où il vient, est-ce que les producteurs ont été bien payés. Et ça, généralement, les producteurs de cacao, notamment Valrhona avec qui je travaille, font vraiment très attention à ça, et on a une vraie traçabilité. Parce qu'on a vraiment, on travaille en plus beaucoup avec des crus de pays, donc c'est-à-dire qu'on sait d'où ils viennent, c'est pas forcément des mélanges de faits de cacao qui viennent un peu de partout. Donc du coup, ça nous aide à avoir une meilleure traçabilité avec la région, le producteur, et ça vaut un peu plus cher, mais ça vaut le coup quand même de savoir que notre chocolat est sain, et puis surtout est propre, et puis et qu'on n'a pas exploité des gens pour produire du cacao, quoi.
Alors, est-ce que vous vous considérez comme un acteur des nombreux changements, limite bouleversements à l'œuvre dans le monde de la gastronomie au sens large ?
Non, je pense pas. Je pense que chaque chef fait son petit pas. C'est chacun qui va amener sa pierre à l'édifice. Mais non, je me considère pas comme quelqu'un qui va révolutionner. On essaye de changer au quotidien. On essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Mais voilà, j'ai pas de prétention à vouloir tout bouleverser. On essaye de changer les choses pour, en tous les cas, nous être clean. Mais mon personnel également, hein, parce que l'idée c'est d'amener tout le monde avec moi là-dessus, parce que c'est un effort qui doit être fait au quotidien par tout le monde. Et ça, c'est le plus important, et quand on arrive à rassembler déjà tout le monde, ça c'est une victoire.
Et d'ailleurs, est-ce que vous vous considérez plutôt comme un pâtissier, un chocolatier ou les deux? Comment est-ce que vous vous définissez?
Un chocolatier-pâtissier.
Chocolatier-pâtissier.
Dans alors, chocolatier toujours en premier, on m'a dit au niveau marketing, toujours la chose la plus faible chez nous. En fait, nous, notre activité, c'est 65% de pâtisserie et 35% de chocolat, mais on tend à augmenter le chocolat. C'est pour ça qu'on est en train de faire un nouveau laboratoire chocolat d'ailleurs.
Alors vous avez des boutiques aussi au Japon, votre passion s'exporte bien, en quoi cette ouverture au monde est essentielle pour vous?
Alors déjà, ça a été un vrai choc culturel d'arriver au Japon. Je me rappellerai toujours la première fois que je suis arrivé à Shibuya, Cross Setting. Là, c'est le croisement qu'on voit à la télé où tout le monde se croise et se rentre pas dedans. Là, c'est assez incroyable. Et je suis arrivé au Japon la première fois là-bas. Donc pour moi, c'est une image qui restera à vie. Et puis ça a été un choc culturel pour moi parce que c'est tellement différent de chez nous. Et puis j'ai appris énormément là-bas. Ça m'a amené énormément de savoir-faire, de remise en question, parce que là-bas, rien n'est acquis. Tout est en perpétuelle évolution, ça change tout le temps. Et du coup, ça m'a mis un bon coup de pied au cul et ça m'a permis de voir les choses différemment, de changer mon comportement, de pas se croire toujours arrivé, et puis de faire évoluer ma pâtisserie également, en sucre moins, en étant un petit peu plus minimaliste parfois aussi. Et puis travailler sur les gâteaux de voyage, sur les gâteaux secs, tout ce qui est un peu tendance là-bas.
Et cette arrivée au Japon, c'était mûrement réfléchi? C'était un hasard, un coup de tête, des recommandations? Comment est-ce que ça s'est
déroulé? En fait, j'ai commencé à faire des démonstrations là-bas pour un groupe laitier. Donc en fait, j'étais consultant pour un groupe laitier où je suis allé faire travailler avec des produits laitiers japonais, mais pâtisserie. Donc j'ai fait des démonstrations à travers le Japon pour des pâtissiers. Et puis je suis parti 2 ans de suite, et puis là j'ai rencontré la personne qui est devenue mon partenaire, et on a monté des boutiques là-bas en fait. Donc c'était un peu une rencontre, le fruit du hasard, mais une envie féroce de ma part de faire quelque chose là-bas, parce que c'est un peu mon deuxième pays, et je m'y sens tellement bien, et c'est vrai que là, le fait avec le Covid de ne pas y aller pendant 2 ans, ça me manque vraiment, et j'ai hâte d'y retourner, parce que ça m'amène vraiment un équilibre et quelque chose qui est inexplicable, mais un besoin en fait.
Il y a toujours un vrai attrait au Japon pour la culture française, la gastronomie française. C'est quelque chose qui ne se dément pas.
Non, c'est indéniable, hein, la cuisine, la pâtisserie, l'art de vivre à la française, en fait, tout ce qui est français, les Japonais adorent. Alors, ils aiment bien les Italiens aussi, mais c'est vrai que la French Touch marche très très bien. Mais après, les Japonais qui ont travaillé en France et qui font des pâtisseries après au Japon, ils sont plutôt pas maladroits, et je peux vous dire que je peux vous emmener dans une dizaine de pâtisseries de Tokyo, et vous allez être étonné et vous allez me dire, mais j'ai jamais vu ça en France, quoi. Donc c'est assez étonnant, et ils savent très bien faire et refaire.
Alors vous avez voyagé partout dans le monde, en tout cas sur beaucoup de continents. Ouais. Quel est, en dehors du Japon, votre voyage rêvé?
Alors le pays que j'aimerais retourner, c'était au Brésil. En fait, j'étais parti pour voir des... Alors au début, en plus j'ai eu la chance de faire plein de villes au Brésil. J'étais parti pour une démonstration à l'époque à Sao Paulo. Et après, on est allé dans des plantations dans un état du Brésil. Et puis on avait fait le premier salon du chocolat du Brésil, qui était à Salvador de Bahia, qui était pour moi, pareil, une claque monumentale. Le Brésil cosmopolite, tout ce qui se passe là-bas, il y a une énergie particulière, il y a quelque chose qui s'est passé lors de ce voyage, et je rêve d'y retourner. Je suis allé qu'une fois, une dizaine de jours pour le salon du chocolat et pour le chocolat. J'ai visité des plantations, j'en ai visité plusieurs, mais celles-ci vraiment les plus belles que j'ai vues, avec un respect du travail du cacao fantastique, des arbres magnifiques. Enfin, c'était vraiment, vraiment fantastique, et puis une atmosphère particulière. J'étais avec plein de copains chocolatiers pâtissiers, et c'était un souvenir impérissable, et je rêve d'y retourner, vraiment.
C'est des voyages qui inspirent aussi pour la création, j'imagine.
Énormément, découverte de matières premières, de produits locaux, donc évidemment ça donne envie. Alors après, il faut les trouver en France, ce qui n'est pas toujours évident, mais effectivement ça forme... le cerveau à penser à autre chose, et puis surtout à faire des essais et à avoir envie de mélanger des fois des choses qu'on n'aurait pas osé si on l'avait pas vu ou on l'avait pas goûté.
Et si vous aviez un voyage à faire, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de voyages à réaliser, ce serait lequel?
Alors, où je suis jamais allé, peut-être Australie ou Nouvelle-Zélande. Je sais pas pourquoi je suis attiré par ces pays-là. Donc, plutôt Nouvelle-Zélande d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, ça me dira bien. Sinon, la Lune aussi.
Donc, on pourrait avoir des boutiques Sébastien Bouillet sur la Lune.
C'est original. Je sais pas si je pourrais malheureusement les connaître, mais non, ça, je suis très fasciné par l'espace en fait. C'est un truc, qui est assez, assez fascinant. Je sais pas si j'aurai la chance de connaître ça, mais c'est, je sais pas, il y a un côté.
C'est une façon de repousser ses limites, de voir plus loin, c'est ça là.
Ouais, je pense, ouais, c'est ça, un peu rêver aussi, hein, un côté un peu rêveur, et de se dire rien n'est impossible et on peut toujours y arriver.
Alors Sébastien Bouillet, vous avez 46 ans, est-ce que c'est déjà l'âge de la transmission, même si vous avez encore beaucoup à découvrir par vous-même, est-ce que vous avez envie de transmettre tout ce que vous avez appris, votre savoir-faire aux jeunes générations? Garçon ou fille d'ailleurs.
Ouais. Ben, c'est l'âge de la raison, je pense, déjà. Non, en fait, on a toujours formé énormément d'apprentis. Il y a beaucoup de formes d'apprentissage chez nous. Hein. Ça va du simple CAP au BTM, qui est le brevet technique des métiers. Donc, en général, on a les jeunes entre 2 et 5 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la pâtisserie, il y a à peu près une vingtaine de personnes en formation actuellement. Et on a toujours beaucoup formé. Parce qu'en fait, c'est très important, parce que c'est les gens qui vont faire le métier de demain. Il est de plus en plus difficile de recruter. Donc, si on ne forme pas, forcément, derrière, il n'y aura plus personne dans ce métier. Alors, on crée des vocations parce qu'on a des formes d'apprentissage différentes. On a aussi des reconversions, beaucoup. Et on forme beaucoup aussi de reconversions, parce que pour nous, c'est hyper intéressant aussi d'avoir des gens qui ont déjà fait quelque chose, qui ont une certaine maturité qu'on n'a pas forcément chez des jeunes de 16 ou 18 ans. Et du coup, qui apprennent beaucoup plus vite. Donc, c'est intéressant d'avoir en fait un peu le mélange des deux, de gens très jeunes et de gens moins jeunes, qui apportent quelque chose aussi à l'équipe. très important. C'est des jeunes qu'on encadre énormément et qu'on essaye d'amener à leur examen et puis surtout de les former pour aller ailleurs après. Hein. J'essaye de leur faire quitter le nid et de les aider à aller en fait dans des belles maisons par la suite. J'ai la chance d'avoir un beau réseau. Donc j'essaye de les placer quand ils sont bien aguerris dans d'autres maisons, et puis ça me fait toujours plaisir quand ils reviennent après et qu'ils ont travaillé dans de belles maisons, qu'ils s'installent, parce que j'ai beaucoup de jeunes qui se sont installés et qui ont une belle réussite. Donc ça, c'est ma fierté à moi, ça.
Nous venons de dépasser le Groupama Stadium et on aperçoit les ailes de l'aéroport. Qu'est-ce que ces deux lieux vous inspirent finalement ?
Alors, Groupama Stadium, c'est l'Olympique Lyonnais que je suis depuis Gerland, depuis que je suis gamin, parce que j'ai beaucoup joué au foot et je me rappelle de souvenirs de matchs quand ils étaient même en division 2 et tout. Enfin, d'ailleurs, mes plus beaux souvenirs sont à Gerland. Alors, Groupama, c'est nouveau, hein, donc ça se construit, j'y vais régulièrement, mais vraiment mes souvenirs de l'OL, moi, c'est le stade de Gerland. Alors maintenant, je vais voir un peu le loup jouer. Mais Groupama, c'est des souvenirs plus récents. Après, j'ai la chance de connaître quelques joueurs, et notamment Anthony Lopez, qui est très client chez nous et qui adore la pâtisserie, d'ailleurs, Anthony. Donc voilà, c'est plein de souvenirs, plein de choses. J'emmène mes enfants maintenant au stade. Donc voilà, c'est assez fantastique. Et puis le stade qui a été fait, qui est un investissement maison en plus. Donc gros respect aussi à Jean-Michel Aulas qui a tellement fait pour l'Olympique Lyonnais et pour la ville, parce que qui dit Olympique Lyonnais dit rayonnement de la ville à l'international, et je pense qu'il en a fait beaucoup pour Lyon, bien plus qu'on peut penser, et je pense qu'on lui doit une grande chandelle que Lyon était connu à l'international, c'est aussi grâce à l'Olympique Lyonnais, donc on peut tirer un coup de chapeau à ça. Et puis l'aéroport, ça m'incite au voyage, ça m'invite au voyage. C'est mon point de départ de tous mes voyages, Lyon-Saint-Exupéry. La gare également, parce que je me sers beaucoup du train maintenant à partir de Saint-Ex, parce que moi, mes labos sont à Miribel, donc à seulement 20 minutes de Saint-Exupéry. Mais en tous les cas, incitation au voyage, au départ, à rêver, parce que finalement, les voyages, c'est aussi rêver. Moi, je me dis que si j'avais pas été, si j'avais pas fait ce métier, j'en serais pas là actuellement, bien évidemment, mais surtout, j'aurais pas eu la chance de faire tous ces voyages. Et c'est tellement fantastique de voyager grâce à son métier, de découvrir, de faire des rencontres. Hein. Moi, j'ai rencontré plein d'amis grâce au voyage. Et puis de s'inspirer de ce qu'on voit. C'est une source d'inspiration, les voyages, finalement, que ça soit professionnel ou pas, d'ailleurs. J'en fais beaucoup professionnellement, mais j'adore partir, quoi. Alors, ça me manque vraiment beaucoup parce que je voyage moins depuis le Covid, mais franchement, c'est une telle libération de voyager. Et puis ce que j'adore, c'est être dans l'avion. Alors maintenant, je sais qu'il y a le wifi, mais moi je le mets pas parce que c'est mon moment de liberté. En fait, c'est 10-12 heures que je passe dans l'avion quand je vais au Japon, et où il n'y a plus rien, il n'y a pas de...
Elles sont à vous, c'est 10-12 heures.
Ah ouais, mais vraiment, c'est quelque chose qui est pour moi qui est sacré. Et là, je déconnecte, je regarde des films, j'écris beaucoup aussi, des idées. Et c'est un moment de liberté où on n'est pas dérangé pendant 10-12 heures, et ça fait vraiment du bien de couper de temps en temps.
Alors Sébastien Bouillet, nous voilà arrivés au terme de ce voyage.
Déjà ?
Ben oui,
passe vite, hein, finalement.
Ça passe très vite. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous.
Un grand plaisir, vraiment. J'espère que les gens prendront autant de plaisir à nous écouter.
Double Voix, c'est fini. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le liker, le partager et en parler autour de vous. Et rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage.